الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الحادي عشر من شهر ذي القعدة عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الخامس في قراءة الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله. Nous sommes le 14 juillet 2019 et nous voici réunis pour le cinquième cours de la lecture de l'écrit intitulé La lettre de Tabouk, rédigée par l'imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nous nous sommes arrêtés la veille dans le sujet de l'obligation d'émigrer vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-hijratu ila al-rasul alayhi salatu wa sallam, dont a parlé l'auteur rahimahullah dans ce chapitre qu'il consacre à ce sujet. Et comme nous l'avions dit, ce chapitre est l'un des plus longs de son écrit. Et le sujet de ce chapitre consiste au devoir que le musulman a d'émigrer vers le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de délaisser toute autre voie que la sienne et rejoindre la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prendre pour juge, guide, modèle dans tous les aspects de la vie, tant bien dans le domaine religieux que dans les actions de tous les jours, dans les différends qui opposent les uns aux autres. Ils ont le devoir de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à sa guidée. Et dès lors qu'ils voient un texte qui vient s'exprimer dans le sujet qui les concerne, ils doivent délaisser toute autre chose et s'appuyer sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme ils doivent délaisser toute nouveauté dans la religion et toute chose qui ne relève pas de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'émigration vers le prophète alayhi salatu wa sallam, qui est l'implication de l'attestation de foi ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout comme l'obligation d'adorer Allah seul et sans associé est l'implication de l'attestation ashhadu an la ilaha illallah. C'est pourquoi nous dit l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah, chacun des serviteurs d'Allah sera interrogé sur ces deux émigrations. Al-hijratu ila Allah subhanahu wa ta'ala bil qalbi wal ikhlas, l'émigration vers Allah de par le cœur et la sincérité envers Allah dans toutes les actions. Wal-hijratu ila Rasul alayhi salatu wassalam bil ittiba'i wat ta'assi, l'émigration vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui se manifeste par le suivi et le fait de le prendre en modèle, alayhi salatu wassalam. L'auteur, rahimahullah, nous dit que chacun des serviteurs sera interrogé sur ces deux émigrations le jour de la résurrection, mais aussi dans son passage dans la tombe, et il se voit redevable d'appliquer le sens de ces deux émigrations dans cette vie d'ici-bas. Il doit appliquer le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous sommes arrêtés après avoir lu le verset et une partie de son explication donnée par l'auteur rahimahullah. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront croyants que quand ils te prendront pour juge dans les différends qui les opposent. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Puis qu'ils n'éprouvent point d'aversion quant au jugement que tu auras rendu, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, et qu'ils s'y soumettent totalement. Trois choses ont été citées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a relevé l'auteur rahimahullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, ne s'est pas seulement contenté d'ordonner aux croyants de prendre pour juge le prophète alayhi salatu wassalam, mais il leur a rendu obligatoire de s'épanouir à cela, de n'éprouver aucune aversion quant au jugement du prophète alayhi salatu wassalam, et pas seulement, plus encore, de s'y soumettre, non pas partiellement, mais totalement. Et c'est ça l'émigration vers le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est ici que nous nous étions arrêtés. Et l'auteur avait aussi dit que cela ne consiste pas à une simple prétention de dire « J'aime le messager, alayhi salatu wassalam, je reconnais qu'il faut le suivre, nous devons le suivre, il faut le suivre. » Cela n'est pas suffisant, mais ça doit se voir dans les membres et se traduire par des actions que le serviteur fait et par lesquelles il prouve qu'il émigre vers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. L'auteur rahimahullah a dit وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. Il nous appelle à méditer ce sens mentionné dans le texte. Le sens mentionné dans le texte, c'est l'obligation de prendre le messager pour juge, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous invite à méditer sur ce principe qui est celui de prendre pour juge le messager, sallallahu alayhi wa sallam, évoqué dans le verset précité, بِوُجُوهٍ عَدِيدَةٍ مِنَ التَّأْكِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé ce sens de plusieurs façons, dont l'auteur va en citer quelques-unes en disant أولها تصديرها بلا النافية وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك وإنما دخولها لسر في القسم وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله لا يؤمنون. On remarque premièrement que ce verset débute par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala فَلَا وَرَبِّكَ. Mais non, par ton Seigneur. Allah Azza wa Jal a cité une particule de négation qui est la, qui sert à nier. Non, Allah Azza wa Jal a dit فَلَا وَرَبِّكَ. Mais non, puis il a juré par lui-même. Mais non, par ton Seigneur. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure en faisant précéder le serment par cette particule qui sert à nier, cela appuie le sens. Je vais vous résumer. Cela appuie le sens et nous fait comprendre aussi que ce qui va être cité et ce pourquoi on va jurer après, c'est une négation. Pour cela, Allah Azza wa Jal dit « Fala wa rabbika » mais non, par ton Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? La yu'minun. Ils ne seront pas croyants. Hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge ou en juge dans les différents qui les opposent. Allah subhanahu wa ta'ala va alors nier quelque chose qui est l'existence de la foi ou de la foi complète selon l'opposition au prophète alayhi salatu wassalam. Et il va appuyer cette négation par une particule servant à nier avant même d'avoir juré. Est-ce que vous me suivez? Allah subhanahu wa ta'ala va nier quelque chose en jurant. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Et pour appuyer et confirmer ou marquer cette négation que ces gens ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils suivent le messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour appuyer ce principe de négation, Allah tabaraka wa ta'ala va, avant même de jurer, d'abord utiliser une négation. Fala wa rabbik. Mais non, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants. Jusqu'à la fin du verset. Cela, nous dit l'auteur, rahimahullah, wa hadha manhajun ma'roufun fi kalam al-arab. Iza aqsamu ala nafi shay'in, saddaru jumlata al-qasami bi adati nafi. Et c'est une façon connue chez les Arabes, lorsqu'ils veulent jurer, lorsqu'ils veulent utiliser le serment pour nier quelque chose, que vont-ils faire dans leur habitude? Ils vont commencer par une négation, puis jurer sur la chose qui a été niée. Comme cela est remarqué dans le verset, dans le sens rapproché. Mais non, négation, par ton Seigneur, serment, ils ne seront pas croyants, négation. La première négation qui est citée avant le serment est là pour appuyer celle qui va venir après le serment. Et c'est une façon connue dans la langue arabe, la langue du Coran. مثل هذه الآية comme dans le verset. ومثل قول الصديق رضي الله عنه لا ها الله لا ها الله يعني لا والله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فيعطيك سلبه. Il nous donne en exemple la parole du compagnon Abu Bakr al-Siddiq رضي الله تعالى عنه. Il ne nous a cité que le passage qui concerne la question, mais pour le comprendre, il faut savoir d'abord de quoi il parle. Dans la bataille de Hunayn, il est connu que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que lors du combat, celui parmi les musulmans qui tue un des ennemis aura le droit de lui prendre ses biens que cette personne va laisser après être tombée. Et donc, il y avait le compagnon Abu Qatada, radiyallahu anhu, qui a tué un des polythéistes ennemis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce polythéiste, avant qu'il ne meure, il s'est attaché à Abu Qatada tellement fort que Abu Qatada a dit « j'ai pensé mourir ». Mais vu qu'il était à l'agonie, il a été affaibli puis il est tombé. Une fois qu'il est tombé, Abu Qatada a demandé un témoin qui va témoigner que c'est bien lui qui l'a tué afin qu'il prenne ce qu'il a laissé. Or, ces biens qui étaient laissés ont été récupérés par un autre compagnon qui est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a demandé, après lui avoir confirmé que c'est bien Abu Qatada qui a tué cet homme, il lui a quand même demandé « Permets-moi de les garder au messager d'Allah. » Et là, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, va dire « La Allah », c'est-à-dire « La Wallah ». Il dit « Non, par Allah ». Qu'est-ce que vous remarquez? Il a juré. Son serment est précédé d'une négation. « Non, par Allah ». « La ya'midu ila asadin min usdillahi yuqatilu anillahi wa rasuli fayu'tiyaka salabah » Dans le sens de la parole, il dit « Non par Allah, celui qui a combattu pour Allah et son messager ne te donne pas ce qui lui revient de droit parmi les biens de la personne qui l'a tué. » Ça, c'est un exemple donné par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah juste pour montrer que cette manière de parler dans la langue arabe est connue. Lorsque l'on veut confirmer, appuyer, soulever, marquer une négation sur laquelle on va jurer, on va faire précéder le serment par une négation. Puis l'auteur, rahimahullah, va citer des vers de poésie et d'autres passages, mais l'essentiel est que vous compreniez ce point-là. « وَقَالَ الشَّعِيرِ فَلَا وَأَبِيكَ بْنَةَ الْعَامِرِ نعم فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر وقال الآخر فلا والله لا يلفى لما بي ولا لديهم أبدا دواء وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي ولا يخرم هذا قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Médite, nous dit l'auteur rahimahullah, sur les différentes phrases relatées dans le Coran, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lesquelles un serment est fait, dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va jurer. Et l'on voit très souvent que ce serment est précédé de la particule de négation « la ». Et que lorsque c'est le cas, on va trouver que ce sur quoi on a juré ou ce pourquoi on a juré est une négation de quelque chose. Lorsque tu médites dans le Coran et que tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure en commençant ou en faisant précéder son serment par la, non, mais non, puis Allah jure, tu verras que très souvent ce par quoi ou ce pourquoi il a juré, c'est pour nier quelque chose. Pour confirmer cette négation, il a utilisé une négation avant même d'avoir juré. Subhanahu wa ta'ala. Mais, des fois, on le trouve de manière explicite. Allah Azza wa Jal nie, jure et nie, de manière claire et explicite. Mais parfois, on le trouve de manière implicite. À l'exemple de ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens rapproché des versets, Allah subhanahu wa ta'ala jure par les positions des étoiles. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Mais non, je jure par les positions des étoiles. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Et ce serment, si vous le saviez, est immense. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. Il est certes un noble Coran. C'est ce pourquoi Allah a juré. Je vous demande ici, voyez-vous une négation? Allah Azza wa Jal a juré pour dire quoi? Il a juré par des créatures, que sont les positions des étoiles. Il nous dit que c'est un serment qui est lourd, qui est important. Et ensuite, il nous dit, c'est un Coran qui est noble. C'est pour ça qu'Allah a juré. Il a juré pour dire que le Coran est noble. Dire que le Coran est noble, est-ce une négation? Ce n'est pas une négation. Vous avez raison, ce n'est pas une négation. Mais ça implique le fait de nier ce que eux disaient. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, فَإِنَّهُ, ou avant de lire, car eux, à qui s'adresse le Coran, les gens de Quraysh, niaient qu'ils émanent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jal a juré que c'est le Coran, c'est un Coran noble. En jurant que c'est un Coran noble, c'est comme si Allah Azza wa Jal a dit, mais non, par la position des étoiles, et c'est un serment qui est lourd ou qui est extrêmement important, ce n'est pas ce que vous dites. Donc il a nié, de manière implicite ou indirecte, ce qu'ils disent, en disant, c'est un Coran noble. فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ بِهَذَا الْقَسَمِ نَفْيَ مَا قَالَهُ الْكُفَّارُ فِي الْقُرْآنِ من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم. Et là, j'ai lu ce que vous venez d'entendre. ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Là, je vais avoir besoin de lire la traduction, inshallah. Mais l'essentiel, c'est qu'ici, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, ces gens-là, les koufars de Quraysh, disaient du Coran qu'il était soit une poésie, soit qu'il émanait de la voyance, ou alors que ce n'était que des contes récités ou dictés par les anciens, et d'autres choses encore. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nier tout cela, toutes ces fausses prétentions à l'encontre du Coran. Il a juré pour nier que le Coran soit de la poésie, de la voyance ou des contes d'anciens, sauf que la négation n'a pas été explicite, elle est implicite. Quand je dis qu'elle n'est pas explicite, je n'entends pas par là qu'elle n'est pas compréhensible ou... Je veux dire par là que les mots utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas en apparence une négation, bien qu'ils le soient dans le sens. Est-ce que c'est clair? Ainsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innahu la Qur'anun karim » C'est certes un noble Coran. Allah tabaraka wa ta'ala veut nous dire qu'il a nié leurs prétentions, qu'il n'était pas le Coran. C'est donc comme si indirectement il avait dit, ce n'est pas ce que vous dites. Ce n'est pas de la poésie. Ce ne sont pas des contes d'anciens. Mais c'est le noble Coran, la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est compris? Alhamdulillah. Puis il a cité d'autres exemples où l'on voit les deux choses que sont l'affirmation et la négation. Quand Allah Azza wa Jal jure et qu'il va jurer pour nier quelque chose, il va faire précéder, comme nous l'avons déjà dit, ce serment par une négation pour confirmer la négation qui va revenir après le serment. Et cette négation qui va revenir après le serment peut être claire, apparente, ou alors comprise par le sens de ce qui est voulu. Et il a cité certains exemples, dont les quelques versets de la sourate At-Takwir, dont je vais vous lire l'essence directement, Inch'Allah. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc ce sont les sens rapprochés, non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle, ceci est le Coran, ou alors ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Donc c'est pour nier ce que eux disaient à l'égard du Coran. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَةِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَةِ. Dans le sens rapproché des versets, Allah Azza wa Jal jure, mais il fait précéder son serment par la négation, encore une fois, non, je jure par le jour de la résurrection, encore une fois, non, je jure par l'âme. Comment on dit nafs al-lawama? Qui se blâme? Non, je jure par l'âme qui se blâme. L'homme pense-t-il que nous n'allons pas réunir ses ossements? Car vous savez que le corps de l'homme qui meurt, comment dirais-je? Il se décompose, les os se séparent, n'est-ce pas? Il y a un os qui reste. Quel est-il? Le coccyx. Comment on l'appelle en arabe? Ajbu dhanab. Ainsi Allah Azza wa Jal va nier ce que ces gens-là disaient. Qu'est-ce que ces gens-là disaient? Ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit atazumu anna rabbaka yab'athuna. Prétends-tu que ton Seigneur va nous ressusciter? Ne croyez pas à cela. C'est un des grands fondements des kuffars, de mécroire à la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala a juré que leur parole est fausse. Voilà, tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala a juré que leur parole est fausse, c'est-à-dire qu'il va réunir les ossements et qu'il va ressusciter, contrairement à ce que ces gens-là ont dit. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه. وثانيها. Maintenant, la deuxième chose auquel nous invite à méditer l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que l'obligation de prendre pour juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que l'on ne perde pas le fil incombe à chacun, et que ce sens-là retrouvé dans le premier verset qu'il a cité pour le montrer se manifeste sous plusieurs aspects. Le premier, comme nous l'avions dit, c'est le fait que le verset débute par la négation qui a servi à appuyer ce sens-là. Le deuxième, ta'kiduhu binafsil al-qasam. Le fait qu'Allah Azza wa Jal a appuyé l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le serment lui-même. Avant d'avoir parlé du serment, il y a la négation. Et maintenant, le serment lui-même. Allah a juré par lui-même qu'aucun ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il prenne pour juge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa thalithuha, troisièmement, ta'kiduhu bil muqsami bihi. وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة. Il est connu qu'Allah dans le Coran jure. Parfois il jure par des créatures et d'autres fois. Afwan, il jure par lui-même. Le fait qu'ici il a juré par lui-même, et c'est le plus haut serment, le fait qu'il ait juré par lui-même, Subhanahu wa ta'ala vient encore une fois appuyer l'importance du sens cité dans le verset. Lorsqu'il nous dit, dans le sens du verset, « Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, ou ils ne seront pas véritablement croyants, jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans les différends qui les opposent. » Wa rabi'uha, quatrièmement, « Ta'kiduhu bintifa'i al-haraj wa wujudu taslim » Le fait qu'Allah Azza wa Jal encore une fois appuie l'obligation de ne pas éprouver d'aversion pour le jugement du prophète alayhi salat wa salam. Quand Allah Azza wa Jal nous dit ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ et qu'ils n'éprouvent aucune aversion quant au jugement que tu auras rendu. وَخَامِسُهَا cinquièmement تَأْكِيدُ الْفِعْلِ بِالْمَصْدَرِ le fait qu'Allah Azza wa Jal dise وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا c'est-à-dire, et qu'ils se soumettent totalement. وَمَا هَذَا التَّأْكِيدُ وَالِعْتِنَاءُ إِلَّا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ وَأَنَّهُ مِمَّا يُعْتَنَى بِهِ وَيُقَرَّرُ فِي نُفُوسِ الْعِبَادِ بِمَا هُوَ مِنْ أَبْلَغِ أَنْوَاعِ التَّقْرِيرِ le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait appuyé l'obligation de le prendre pour juge par toutes ces choses-là, le fait de faire précéder le serment par une négation, le serment lui-même, le fait qu'il juge par lui-même, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il appuie l'importance de ne pas éprouver de gêne vis-à-vis du jugement du prophète, alayhi salatu wassalam, le fait qu'Allah azza wa jal oblige à se soumettre totalement et non partiellement, toutes ces choses-là, que l'on retrouve dans un seul verset, quand on parle de l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, montre la grandeur de ce sujet et le besoin que les gens ont de le connaître et le besoin que les gens ont de le développer en eux. Wa qala ta'ala. Maintenant, l'auteur rahimahullah va citer la deuxième preuve montrant l'obligation d'émigrer vers le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire le suivre, le prendre pour modèle et délaisser toute autre voie que la sienne. Wa qala ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Dans le sens rapproché du verset, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils en ont envers eux-mêmes. Subhanallah. C'est-à-dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour le croyant, passe avant sa propre personne. C'est ce qu'il va développer ici. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنِ الرَّسُولُ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ceci est une preuve, nous dit l'auteur, montrant que celui qui ne fait pas passer avant sa personne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie des croyants. Ne fait pas partie des croyants, cela dépend du degré dans lequel la personne a fait passer sa propre personne avant le messager sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est une question de mécréance majeure, alors ce qui sera voulu, c'est qu'il ne fait pas partie du tout des croyants. Si c'est une question où le croyant a fait passer ses passions avant, mais en faisant un acte qui n'implique pas la mécréance majeure, à ce moment-là, ce qui est voulu quand on dit qu'il n'est pas croyant, c'est-à-dire qu'il n'est pas croyant totalement ou comme il se doit. Cette priorité qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous-mêmes implique plusieurs choses, parmi lesquelles minha an yakuna ahabba ila al-'abd min nafsihi. Le messager doit être plus aimé chez le serviteur qu'il n'aime sa propre personne. لأن الأولوية أصلها الحب. Car l'origine de la priorité ou de faire passer en priorité, c'est l'amour. C'est le fait d'aimer qui te fait passer en priorité ce que tu aimes. Dans ta vie de tous les jours, tu as des priorités. Ce sont les choses que tu préfères et auxquelles tu accordes plus d'importance par rapport aux autres choses. ونفس العبد أحب إليه من غيره ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها فبذلك يحصل له اسم الإيمان. Il est connu que l'homme aime sa personne plus que tout, et malgré cela il doit préférer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à sa propre personne, et c'est en l'appliquant que l'on peut le décrire par la foi, soit la foi totale ou la foi, la véritable foi. Et vous connaissez peut-être le récit de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui un jour marchait avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a juré qu'il l'aimait. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé, est-ce que tu m'aimes plus que ta propre personne? Omar a dit non au messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit pas encore. C'est-à-dire, tu n'as pas encore atteint la véritable foi, ou alors la foi totale. Le compagnon Omar, qu'Allah l'agrée, n'a pas réfléchi un seul instant. Car le but du croyant, et les imams, les croyants sont les compagnons, c'est d'atteindre la foi complète. S'il n'a pas encore atteint la foi complète, on vient de lui dire que pour l'atteindre, il doit faire telle et telle chose, il l'applique directement. Alors Omar radiallahu anhu lui dit, ô messager d'Allah, Wallah, et maintenant je t'aime plus que moi-même. Le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, Al-an ya Omar, maintenant, ô Omar. C'est-à-dire, tu viens d'atteindre la foi complète. Wa yalzamu min hadhihi al-awlawiyyati والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإثاره على كل من سواه. Mais il ne s'agit pas que de prétendre, de dire j'aime le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Cela n'est pas suffisant. Mais cela doit se manifester par la soumission au messager, par son obéissance, par le fait d'être satisfait de son jugement et tout ce qui va découler de cela. Tu dis j'aime le messager, tu suis le messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'innoves pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que vous devez faire ancrer dans les cœurs des gens, les gens de la masse et autres parmi les croyants. Leur faire comprendre que le musulman, oui, il doit dire j'aime le messager sallallahu alayhi wa sallam, et je sais que nous devons le suivre. Mais il ne se contente pas de ses paroles, il les fait suivre par la preuve. C'est pour cette raison que quand ils ont dit nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a révélé un verset qui va être surnommé plus tard par les savants comme étant le verset du test, ayatul mihna, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ, dit si vous aimez vraiment Allah, fattabi'uni, suivez-moi donc, yuhbibukum Allah, Allah vous aimera alors, wa yaghfir lakum dhunubakum, et vous pardonnera vos péchés, wallahu ghafurur rahim, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, s'ils prétendent aimer Allah, eh bien, ils doivent suivre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. S'ils prétendent aimer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, ils ne doivent pas dire Nous avons trouvé nos ancêtres, nous avons pour habitude de faire de telle manière, alors que cette manière est contradictoire avec la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais au contraire, ils doivent dire, j'aime le messager, alors je le suis. Chaque jour, j'apprends. Si mes ancêtres étaient dans l'erreur parce que peut-être qu'ils, eux, ils ne savaient pas, ils ignoraient, moi, j'ai su. En réalité, je ne les suis pas. Parce que eux agissaient par ignorance et ne savaient pas qu'il ne fallait pas agir ainsi. Quant à moi, j'ai pris connaissance des textes. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Sunna, je ne peux plus dire que je les suis. Car eux agissaient par ignorance, si c'était le cas pour eux. Wallahu musta'an. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, وَمِنْهَا Parmi les choses impliquées par le verset, النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ Le prophète a plus de droits envers les croyants qu'ils en ont envers eux-mêmes. وَمِنْهَا أَلَّا يَكُونَ لِلْعَبْدِ حُكْمٌ عَلَى نَفْسِهِ أَصْلًا بَلِ الْحُكْمُ عَلَى نَفْسِهِ لِلْرَسُولِ يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. Parmi les choses que tu comprends de ce verset, nous dit l'auteur, rahimahullah, l'imam Ibn al-Qayyim, est que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la base ne doit même pas lui-même porter des jugements, des décisions venant de lui indépendamment des décisions du messager sallallahu alayhi wa sallam pour lui-même. Ce que tu décides pour toi-même, tu dois prendre ce que t'a enseigné le messager sallallahu alayhi wa sallam et tu dois faire en sorte de ne même pas avoir toi-même une décision qui vient de toi, indépendante de la décision du messager d'Allah, alayhi as-salatu wassalam. Au contraire, tu dois te conduire en appliquant ce que lui nous a enseigné. Il nous a tout appris. Et c'est ça l'islam et la soumission à Allah, azza wa jal. Et c'est pour cette raison que les sahaba, radiyallahu anhum, je ne vais pas dire se vantaient, mais exprimaient leur joie, et leur réjouissance à l'idée de n'agir que par l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au point d'aller accomplir ses besoins à la manière du prophète, alayhi salatu wa sallam, de dire ce qu'il faut dire en entrant et en quittant les lieux à la manière du prophète, alayhi salatu wa sallam. C'est ce que l'on comprend de verset. L'auteur a dit, Faya ajaban. كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول وأن ما جاء به لا يفيد اليقين إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به والحوالة في العلم النافع على غيره وذلك هو الضلال المبين. Oh combien étonnant, nous dit l'auteur, rahimahullah, la situation de certaines personnes. Comment ces personnes qui prétendent appliquer cette priorité qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur elle-même. Comment ces personnes qui prétendent appliquer, qui prétendent dire « Je suis le messager, je sais qu'il a plus de droits envers moi-même que j'en ai moi-même envers ma personne, je sais qu'il passe avant moi, je sais qu'il est mon bien-aimé, mon préféré » pour ensuite aller prendre un autre jugement que le sien, sallallahu alayhi wa sallam. Et être satisfait d'un autre jugement que le sien, de trouver un épanouissement, une réjouissance ou une quiétude dans le jugement d'autre que lui, que l'on ne retrouve pas dans son jugement, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, comme l'a dit le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, c'est ce que l'on retrouve dans les différentes fractions ou dans les différents groupes s'affiliant à l'islam, mais égaré de la voie originelle de l'islam, notamment dans le domaine de la croyance, et plus particulièrement dans le domaine des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où tu vas voir des choses étonnantes. L'un d'entre eux va dire, dans ce domaine-là, qui pourtant relève de l'invisible, on ne peut pas le percevoir. On a besoin de textes pour le connaître. Eh bien, ils te disent, nous devons nous baser sur la raison. Nous devons nous baser sur notre réflexion. Mais à quoi est-ce que ta réflexion, malsaine, va-t-elle aboutir alors que elle réfléchit sur ce qu'elle ne peut pas voir? Allah subhanahu wa ta'ala. Pour parler d'Allah, tu as besoin des informations qu'Allah te donne lorsqu'il se présente à toi par ses noms et attributs. Subhanahu wa ta'ala. Pour parler du jour du jugement, pour parler de ce qu'il adviendra de l'un d'entre nous après la mort, pour parler de tout ce qui domaine, de tout ce qui relève, pardon, du domaine de l'invisible, tu ne peux t'exprimer dans ces sujets que tu ne connais pas que si tu as lu un texte, un verset ou une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ces gens-là vont dire, nous faisons passer notre raison avant les textes. Wal'iyadu billah. Ou alors, ils disent que les textes ne font pas aboutir à la certitude. La certitude, on peut l'atteindre par le raisonnement, pas par les textes. C'est-à-dire que pour eux, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il s'est élevé au-dessus du ciel, ou autre, ce texte n'amène pas à une certitude. On n'en est pas certain. Pour arriver à une certitude, on doit utiliser notre raison. Et ça, c'est l'égarement dans toute sa réalité. Et d'autres paroles encore par lesquelles il tente de dévier de la voie d'Allah ou de s'en détourner. Et c'est étonnant. Parce que ces gens prétendent que le messager sallallahu alayhi wa sallam est prioritaire, mais ils ne prennent pas son jugement. Ils ne suivent pas sa voie. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, وَلَا سَبِيلَ إِلَى ثُبُوتِ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةِ إِلَّا بِعَزْلِ كُلِّ مَا سِوَى. Il n'y a nulle autre voie menant à l'application de cette priorité que le fait de délaisser ou de s'isoler ou d'éloigner tout autre que sa voie. Sallallahu alayhi wa sallam. وَتَوْلِيَتِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَعَرْضِ مَا قَالَهُ كُلُّ أَحَدٍ سِوَى عَلَى مَا جَاءَ بِهِ. Et il montre aussi qu'il n'y a d'autre moyen que le fait d'exposer la parole de tout le monde à la sienne. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux savoir si c'est la vérité dans le domaine de la religion, dans le domaine de la croyance, dans le domaine du halal, dans le domaine du haram, dans le domaine de telle et telle chose, la personne te donne une parole qui vient d'elle, expose-la à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si elle concorde, tu l'acceptes. Si elle ne concorde pas, tu la rejettes. فَإِنْ شَهِدَ لَهُ بِالصِّحَّةِ قَبِلَهُ وَإِنْ شَهِدَ لَهُ بِالْبُطْلَانِ رَدَّهُ وَإِنْ لَمْ تَتَبَيَّنْ شَهَادَتُهُ لَهُ بِالصِّحَّةٍ وَلَا بُطْلَانٍ جَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَوَقَفَهُ حَتَى يَتَبَيَّنَ أَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى بِهِ. Et si les paroles des gens que tu essaies d'exposer aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'y trouves pas de manière claire un jugement qui approuve la parole des gens ou qui la renie, alors tu te conduis envers cette parole comme tu te conduis envers les récits rapportés des gens du livre. Quelle est la manière d'agir envers ces récits chez les croyants? Les croyants ne les confirment pas ni ne les rejettent. Tant qu'ils ne voient pas une preuve claire pour les nier ou pour les rejeter, ils les laissent en suspens. Au moment où ils trouvent une preuve qui vient confirmer la véracité de leurs propos, alors ils disent « ces propos sont véridiques ». S'ils trouvent une preuve montrant la caducité de ces propos, ils disent « ces propos sont caduques ». S'ils ne trouvent aucune preuve pour affirmer la véracité ou la caducité, ils s'abstiennent. Comme ils le font avec les propos des gens du livre. Ça, c'est la voie pure de l'islam. L'auteur, rahimahullah, dit, فَمَنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ اسْتَقَامَ لَهُ سَفَرُ الْهِجْرَةِ وَاسْتَقَامَ لَهُ عِلْمُهُ عَمَلُهُ وَأَقْبَلَتْ وُجُوهُ الْحَقِّ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ. Quiconque emprunte cette voie, ce chemin-là, son émigration vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sera droite et correcte. Donc là, l'imam al-Qayyim, il est en train de te développer le sujet de l'immigration vers le messager, alayhi salat wa salam, et te montrer à quel point elle est importante. Il te montre qu'elle est un devoir. Il te montre comment Allah en parle dans le Coran, en jurant, en niant, en jurant par lui-même, en appuyant sur l'obligation d'éprouver une réjouissance au jugement du prophète, alayhi salat wa salam, en te montrant qu'il a plus de droits sur toi que tu n'en as toi-même envers ta personne, qu'il passe avant toi, en te montrant que les paroles des gens, tu les exposes à la sienne, alayhi salat wa salam, les pratiques des gens, tu les exposes aux siennes, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est conforme, tu l'acceptes, ce qui ne l'est pas, tu le rejettes. S'il n'y a pas de preuve, tu le laisses en suspens jusqu'à avoir une preuve pour savoir comment agir. Si tu agis de cette façon, te dit l'auteur, rahimahullah, eh bien, ton cheminement vers le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, sera correct. Ta science et tes actes seront corrects aussi. Et tu verras la droiture et la vérité. C'est pour cette raison que les pieux prédécesseurs disaient, man hakkama sunnata fi kulli shay, nataqa bil hikmah. Celui qui prend la sunna en juge dans toute chose prononcera une parole sage. Il ne peut dire que de la sagesse. Car la sunna, c'est la hikmah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. En parlant de lui-même, Allah Azza wa Jal dit, il est celui qui a envoyé vers les illettrés un messager issu d'eux, يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, qui leur récite ses versets, وَيُزَكِّيهِمْ, les purifie, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, et leur enseigne le livre et la sagesse. Et la sagesse voulue ici, c'est la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par laquelle la personne va s'exprimer si elle prend pour juge la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute chose. L'auteur rahimahullah dit, وَمِنَ الْعَجَبِ أَنْ يَدَّعِيَ حُصُولَ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَالْمَحَبَّةِ التَّامَّةِ مَنْ كَانَ سَعْيُهُ وَاجْتِهَادُهُ وَنَصَبُهُ فِي الْإِشْتِغَالِ بِأَقْوَالِ غَيْرِهِ وَتَقْرِيرِهَا والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول عليها فإن وافقها قبل وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا كما قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Fait partie également de l'étonnement, nous dit l'auteur, de voir que certains prétendent aimer le messager, alayhi salat wa salam, ils prétendent l'aimer totalement, ils prétendent lui donner cette priorité sur eux-mêmes, dans tout. Puis quand on observe sur la manière d'agir de ces gens-là, on voit qu'ils fournissent leurs efforts, qu'ils dépensent, qu'ils se fatiguent dans les paroles d'autres que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, il dit, je suis le messager, il passe avant tout, c'est mon bien-aimé, mais dans la pratique, dans le concret, et c'est le cas de beaucoup de gens, c'est la parole d'une personne qui prime et qui est prioritaire. C'est l'idéologie de la voie qu'il suit, qui prime et qui est prioritaire. Ce sont les coutumes de ses ancêtres qui priment et qui sont prioritaires. D'un côté, il dit aimer le prophète, alayhi salat wa salam, mais de l'autre côté, il ne l'applique pas. Et c'est étonnant, nous dit l'auteur, rahimahullahu ta'ala, de voir que ces gens-là se mettent en colère, non pas pour la parole du messager, alayhi salatu wassalam, mais pour la parole d'autre que lui. Et lorsque la parole du messager, alayhi salatu wassalam, leur parvient, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'exposent à la parole de ceux qu'ils suivent. C'est-à-dire que toi, à la base, on te dit, on te donne un jugement. On te dit qu'il est bon de faire telle chose, ou qu'il est interdit de faire telle autre chose. Que dois-tu faire? Tu dois aller vérifier dans la sunna si c'est vrai. Si le messager l'a ordonné, s'il l'a mis en pratique, ou alors s'il l'a approuvé. Tu dois aller voir dans la voie des pieux prédécesseurs si cela est rapporté de manière authentique. Eh bien, il y a des gens qui font cette chose-là, mais avec la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils exposent à la parole d'autre que lui. Subhanallah. Tu leur dis, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, as-tu entendu? As-tu saisi? As-tu compris? Ils disent oui, je vais vérifier chez telle et telle parole, dans tel et tel livre, de tel et tel, comme on le voit dans le soufisme par exemple, wal'iyadhu billah, où l'on va tellement accorder d'importance à ce maître suivi, qu'on va lui exposer les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui demander à lui comment agir vis-à-vis des paroles du prophète, sallallahu alayhi wassalam. Quel égarement est pire que celui-ci? Subhanallah. Y a-t-il un homme plus connaisseur que le messager envoyé, choisi, élu par Allah? Subhanahu wa ta'ala, bien sûr que non. Et ces gens-là qui agissent ainsi, s'ils voient que le hadith est en conformité avec ce à quoi ils adhèrent au hadith. S'ils voient que le hadith n'est pas en conformité avec ce à quoi ils ont adhéré, ils font l'une des deux choses suivantes. Soit ils falsifient, soit tout simplement ils se détournent de ce hadith. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le verset, وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Dans le sens rapproché du verset, s'ils falsifient ou s'ils se détournent, alors Allah est certes parfaitement informé de ce qu'ils font. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, va ensuite développer ce verset-là. Car il contient des grandes leçons. Il nous dit, وَقَدْ اجْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَسْرَارٍ عَظِيمَةٍ نَحْنُ نُنَبِّهُ عَلَى بَعْضِهَا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا. Et comme ce verset que l'on vient d'entendre comporte de très grands secrets, nous allons attirer l'attention sur certains d'entre eux, car le besoin est grand de les connaître. Ici, l'imam Ibn al-Qayyim a cité que la fin du verset. Mais là, après l'avoir cité, il va citer tout le verset, puis il va l'étudier et faire sortir les richesses de ce verset. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. On va s'arrêter ici aujourd'hui, inshallah ta'ala, et reprendre sur ce verset à la prochaine assise. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.